Ce podcast est une présentation de l'Antre du Geek. Venez nous visiter à l'antredugeek.net.
Your Honor, this is important.
You play with the nobility of innocent people.
Yes, sir.
Be quiet.
But
my hands are signed by the unalterable fetters of the law, and I would invoke the tradition of our illustrious fathers to reach back to a purer stern justice and have you.
Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier à aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Balbino, je vous présente tout de suite mon co-animateur David Jonf. David, comment ça va aujourd'hui?
Regarde-moi bien ça, l'énergie.
Ouais.
Surtout l'octave auquel je parle.
T'as sorti ta voix de Barry White.
Oh, ooh, yeah.
Fait que,
sexual healing.
Un petit rhume?
Oui, mesdames, elle est pour vous. Ben, tu sais, on a joué à Donjon Dragon hier. Fait que je me suis couché vraiment tard. Puis, parce que j'étais reconduit à mon frère en plus après la game. Puis là, avec le changement d'heure, on s'est comme couché à minuit. Mais avec le changement d'heure, il était rendu comme 1h du matin. Tu sais, dans notre corps, c'est comme s'il était rendu 1h du matin, même s'il était minuit. Mais ma petite fille, elle. Elle n'a pas compris le changement d'heure encore, la petite fille d'un an et demi. Fait que donc, la courte nuit n'a pas aidé à ma rémission. Puis là, j'ai toussé toute la journée, et, d'où ma voix de Barry White.
Mais,
et toi?
Ah, moi, non, ça va. J'avais une journée de congé aujourd'hui. Ce qui est comme...
Wow!
Exceptionnel. En fait, j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas rattrapé... j'ai fait du ménage, c'est vraiment dull. Mais...
Parce que c'est ça, en fait, on n'a pas réussi à enregistrer depuis deux semaines parce qu'on n'a comme aucun moment ensemble en même temps, sauf la partie de Donjon Dragon d'hier soir qui était déjà prévue.
Puis écoute, genre, les épisodes de Vision X sont sur Balado Québec, puis tu sais, mais je les ai pas mis sur, sur notre site internet depuis deux épisodes. Je vais me rattraper là-dedans, là, mais...
Si on était tous fiers d'avoir des épisodes à toutes les semaines, puis finalement, ça, depuis un mois, on en a fait deux.
Ouais, fait que le mois d'octobre, ça a été un mois de merde. Je trouve que l'image qu'on voit en ce moment fait avec le mois d'octobre. J'avais l'air de ça pendant le mois d'octobre. Mais, puis le changement d'heure, c'est vraiment de la merde.
Écoute, il faisait noir comme de langue dehors à 4h30. Arc! Arc!
Non, c'est débile, c'est ridicule, là. Je veux dire, moi je pense que c'est une conspiration, le changement d'heure, pour vendre plus d'antidépresseurs.
C'est ça, c'est les pharmaceutiques.
C'est tout le temps les pharmaceutiques. C'est tout le temps eux autres. Mais, ouais, fait que c'est ça. C'était notre chronique, c'était notre éditorial de journée.
Mais en fait, aujourd'hui, on était supposé d'enregistrer sur un film qui était supposé d'être notre épisode de Noël. Notre épisode de l'Halloween.
Ouais.
Donc, ça va être un peu décalé, mais je pense que ça va être un bon épisode quand même.
Il n'est jamais trop tard pour parler de d'Halloween. Mais, ouais. Mais on se lance-tu direct dedans ou quelque chose que tu voulais nous raconter avant de...
Non, moi je suis prêt à y aller.
Tu sais, ça fait deux semaines qu'on ne l'a pas fait, là. Je sais plus comment ça marche. Les 76 épisodes devant, là, ça compte pas. Donc, David, présente-nous, voyons, c'est bon. Les films de la Je vais recommencer. Hein? David, présente-nous le film de la semaine.
Cette deux semaines, nous avons écouté un film classique. Je parle de Ghostbusters 2, film classique de 1989, Ghostbusters 2. L'histoire est essentiellement la même que Ghostbusters 1. Donc, les Ghostbusters se retrouvent devant très peu de travail parce qu'il n'y a pas de fantômes à New York. Et ils cherchent des job-in à gauche, à droite. Ils font des fêtes d'enfants, tout ça. Ils ont vraiment zéro crédibilité. Bien que 3 ans auparavant, ils ont sauvé la ville. Tout le monde les acclamait. En tout cas, bref. Ils se cherchent de l'emploi. Et un gros nono, évidemment, décide de ne pas les écouter quand finalement il découvre un filon, une rivière de slime qui passe sous la ville. Et donc il décide d'aller voir les autorités. Mais les autorités ne les écoutent pas et les enferment. La ville donc se retrouve remplie de fantômes. Leurs services sont essentiels. Donc la police va les rechercher en prison et ils sauvent le jour. À travers cette histoire-là, on a un portrait, une espèce de Vlad Lampaleur, mais qui s'appelle... J'ai noté son nom en entier parce que c'est un peu complexe.
Ah!
Viggo...
Le Carpathien. Ah, mais il y a une espèce de... Non, OK.
Viggo von Humburg-Dutschendorf. Voilà le nom de cette créature. Donc, il est dans une peinture et la slime anime cette peinture-là d'essentiellement Vlad Lampaleur, qui décide d'essayer de reconquérir le monde, de devenir l'antéchrist en prenant possession du corps d'un tout petit bébé. Et donc, le bébé est la... Et c'est le bébé de pas de Bill Murray, mais de... Voyons, Alien.
Sigourney Weaver.
Sigourney Weaver, qui est la maman du petit bébé, qui reconnecte avec Bill Murray. Tu sais. Et donc, Bill Murray se voit obligé d'aller à la défense de l'enfant, de la fille qu'il voudrait avoir dans son lit. Ouais.
C'est toujours une bonne manière de l'avoir dans son lit. Écoute... tu sais, j'ai plus... Quand j'étais jeune, j'ai vu le 2 avant de voir le premier. Okay?
Oh, OK.
Bah, tu sais, le premier, écoute, c'est quelle année, Ghostbusters?
84, je pense.
Ouais. En 84, j'avais un an. Écoute, tu sais, j'ai eu 2 ans. 89, j'étais déjà un peu plus vieux. Fait que j'ai vu celui-là en premier. Fait que j'ai toujours un bon souvenir de ce film-là, malgré le fait que les gens en parlent vraiment mal. Je dirais que même à ça, je garde toujours un bon souvenir quand je le vois. Je ne crois pas que le film est aussi mauvais que les gens le disent. Le plus gros problème du film, c'est qu'il y a comme pas de... Il y a pas de filon, il y a rien, tu sais. Il y a pas de...
Non, c'est pour ça que je me suis éternisé un peu dans le scénario, tu sais, parce qu'il y a vraiment pas de ligne conductrice.
Ouais, c'est ça.
Où on essaie de nous en donner une, mais elle est trop mince, elle est trop étalée. On dirait, tu sais, dans un sens. C'est comme de la pâte à tarte, tu sais, quand elle est trop mince, à un moment donné, ça finit par se casser un peu partout. Là. C'est un peu ça qui arrive dans cette histoire-là. Je sais pas si tu es d'accord avec moi.
Ouais.
Parce qu'on dirait qu'ils ont essayé d'adapter exactement la même courbe narrative que Ghostbusters.
Oui, ben, ils ont essayé de suivre le même espèce de chemin là, qu'ils font. Là. Ils passent de gens qui n'ont aucune crédibilité de nullité à devenir genre des stars. Là. Puis sauver New York. Là. Encore une fois, c'est un événement cataclysmique. Là. Il y a quelque chose de vraiment gigantesque qui va détruire New York. Ce qui est drôle, parce que tu fais que, man, ça n'existait pas avant. Tu sais, je veux dire qu'il y a des fantômes un peu partout. C'est correct. T'sais. Puis là, il y a des dudes qui apparaissent, puis ils attrapent les fantômes. Ça va, le monde pouvait vivre sans eux. Là. Mais là, tu te rends compte, c'est comme, ah, oh, man, les Ghostbusters sont absolument nécessaires. Sinon, là, ça aurait été la fin du monde. Là.
C'est juste à New York.
Oui, c'est juste à New York. Puis, mais c'est parce que c'est une ville de merde.
C'est ça, parce que quand tu meurs, il faut que tu sois vraiment fâché pour revenir en tant que fantôme. Ouais. Fait qu'il y a juste à New York que ça se passe.
À New York, il y a bien du monde fâché. Mais, écoute, ils ont gardé cette même affaire-là. Ce qu'ils ont essayé de faire, c'était plus autour des personnages. Ils ont essayé de leur donner... Ils ont plus d'espace dans Ghostbusters 2 pour... étoffer les personnages et les établir que dans le premier. Je sais pas si t'es d'accord avec moi.
Ben, il y aurait eu plus de place. Mais je suis pas convaincu qu'il l'utilise.
Ben, moi, je trouve que... il y en a. Il l'utilise, là. Je veux dire, il y a beaucoup de scènes dans Ghostbusters 2 qui sont simplement les personnages. Tu sais, les personnages en train de jaser. Ce qui est très, très, très rare dans le premier. Tu sais, où tu t'en vas vraiment dans le. Dans l'être, dans l'état de la personne. Je dis, dans Ghostbusters 1, je me souviens d'une scène vraiment qui me frappe, qui était comme ça. C'était la scène où Winston puis Ray sont dans le char. Puis ils parlent genre de la mort, puis la fin du monde, de l'apocalypse. Puis ça, je trouvais que c'était une super belle scène. Mais dans Ghostbusters 2, il y en a beaucoup de scènes de même. Mais c'est ça. Mais c'est qu'il n'y a pas d'histoire autour. Il n'y a pas de...
Parce que, tu sais, moi, je comprends ce que tu veux dire par rapport à l'évolution des personnages. Mais tu sais, moi, mon Ghostbusters préféré, ça a toujours été Egon. Je pense que j'en avais déjà parlé dans Ghostbusters 1, sur notre épisode sur Ghostbusters 1. Mais je me sens un attachement particulier envers le grand mince lunette, OK? Avec des cheveux en brosse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis de même. Bref. Il n'y a aucune place dans ce film-là, ce personnage-là.
Egon?
Il est là parce qu'il était là dans le premier, là, tu sais, mais l'espèce de scène où est-ce qu'il teste les émotions des gens sur la psyché, machin, là, je sais pas trop quoi, là, c'est quoi le jargon qu'il utilise. Mais il y a cette scène-là, mais à part de ça, à quoi il sert?
Je sais pas, moi, là, je me dis exactement le contraire de toi en regardant le film.
Oh.
Moi, je me disais, ah.
Tu as écouté le même film?
Ouais. Moi, je me disais, ah, c'est le fun. Egon dans Ghostbusters 2 a beaucoup plus de place que dans le 1. Dans le 1, il parle pratiquement jamais.
On en arrive à deux conclusions radicalement différentes.
Ouais, il y a très peu. Là, Egon a de l'espace. Même qu'il punch, il fait des blagues. Des fois, il fait des trucs. Là, il fait.
Oui, il parle, mais il n'y a pas d'évolution du personnage.
Il y en a-tu dans le premier?
Mais il y en a quand même une où de l'espèce de bookworm là, du gars qui regardait, qui était scientifique, qui a fini avec ses livres, tout ça, avec la secrétaire, il commençait à avoir un petit quelque chose à un moment donné, un petit lien. Mais finalement, la secrétaire, elle s'en va voir Rick Moranis.
Rick Moranis. Mais ouais, je comprends. Mais en même temps, c'est pas un film dans lequel. En fait, les personnages ont. Le seul personnage qui a une croissance, une progression, c'est Peter Venkman. Mais c'est bizarre parce que c'est pas une progression par rapport au film directement. C'est une progression entre, genre. C'est entre les événements qui sont passés entre les deux films, puis ce qui aboutit à être à la fin du deuxième, tu sais.
Je suis d'accord jusqu'à un certain point. C'est juste que je trouve qu'il y a quelqu'un qui le bat à ce jeu-là. Puis c'est Sigourney Weaver, Dana Barrett.
OK.
C'est-tu juste moi que ça énerve que dans le premier Ghostbusters, c'est une violoncelliste? Violoniste?
Violoncelliste.
Ouais, violoncelliste.
Mm-hmm, dans l'orchestre de...
Classique, dans le Met.
Non, je pense que dans le...
Ou dans le New York film.
Phil, New York film, je pense.
Puis là, dans le 2, elle est restauratrice dans un musée.
Ça me gosse énormément. Voyons.
Ça sort d'où, cette affaire-là?
Ah, c'est...
Parce qu'on s'entend, là, vous dites, toi puis moi, on est des artistes, on le sait, mais j'espère que les gens qui ne sont pas artistes dans l'âme, qui n'ont pas fait d'études en art, le savent aussi que c'est pas facile à être artiste, là. Ça prend des études.
Ah, puis pour restaurer,
c'est pas juste du talent. Il y a beaucoup, beaucoup de travail en arrière de ça.
Tu sais, moi, ce qui me gosse, justement, c'est le choix de. En fait, j'ai pris dans mes notes. Le choix d'en avoir fait une restauratrice dans un musée tout à coup, ça m'a vraiment gossé. Parce que sérieusement, tu peux pas passer de violoncelliste à faire ça, là, juste de même. Là. T'sais, c'est une job qui s'apprend dans la vie, là, autant être violoncelliste que restaurer des œuvres d'art. Un. Deux, c'est qu'à un moment donné, elle dit « Ah, bientôt, tu sais, je pense, le petit rendu assez vieux, je vais retourner à l'orchestre. » J'étais comme « Man. »
Tu fais ça dans ton spare time?
Non, mais même à ça, en 1989, il n'y avait pas de congé de maternité. Là, fait je disais, si t'es pas dans l'orchestre, parce que t'es plus dans l'orchestre, puis tu peux pas y retourner quand ça te tente, là. En tout cas, c'est un peu weird. Je fais comme, mais pourquoi faire ces choix-là? Tu sais, pour moi, c'est des choses inutiles. ça change quoi l'histoire? Je veux dire, est-ce que Dana avait besoin de travailler dans le musée pour que son bébé soit mêlé à l'histoire? Non! Puis ça revient à une phrase que j'ai lue cette semaine sur Ghostbusters 2, qui fait partie d'une critique qui avait été faite. Il dit, quand on voit ce film-là, on a l'impression que c'est le premier jet du scénario qu'on a mis en film. Parce qu'il y a trop de choses que tu fais comme, ben, ouais, non, t'aurais pu faire ça à la place, t'aurais dû faire ça à la place. Ce film-là nous accroche sur plein de
que le violoncelle de Sigourney Weaver soit peint du sang d'un innocent de machin chouette, là, tu sais. Ça aurait pu être cool.
Non, puis ça, tu sais, t'aurais même pu aller juste le fait que, man, c'est son ami qui travaille dans le musée, là. Tu sais, genre, le personnage de Yana Shpoa aurait simplement pu être un ami de Dana Barrett.
Pis... ça aurait pu carrément être son chum, là, rivalité avec Bill Murray.
Ouais, ça aurait été.
Il arrive là-dedans, mieux. Le chum, il devient méchant. Peter, il arrive, puis il essaie de sauver l'enfant le nouvel ex de sa blonde. En tout cas, tu sais, il aurait pu avoir de quoi de vraiment plus intéressant, de vraiment mieux ficelé que Dana Barrett qui devient subitement restauratrice.
Ouais, ça c'est le genre de choses qui m'a gossé. Puis c'est le scénario est rempli de petites affaires de même. Exemple, justement, parlons de Yanosh, tu sais, on va parler de Yanosh à l'extérieur de la performance. On parle pas des acteurs, on parle de Yanosh dans l'histoire. Ouais. Le personnage est vraiment juste gossant. Là.
Ouais, il est vraiment inutile.
Il est vraiment. Le problème, c'est qu'il est utile. Il sert à quelque chose.
Oui.
Mais, sacrément.
Mais c'est parce que ce que je veux dire, c'est qu'il y a une fonction dans l'histoire.
Mais pas dans la vie.
mais pas dans la vie.
Ah ouais. Écoute, c'est une limace humaine. Mais. Il n'y avait pas besoin de le rendre chiant comme ça. Tu sais ça? Pourquoi il fallait qu'il soit gossant de même? Puis c'est plate. T'sais, la panne d'électricité, je trouve ça drôle. Mais quand tu y penses, man, tu peux pas causer une panne dans une ville en entier.
Ben, il y a quelqu'un qui a fait ça il y a 2 semaines à Montréal. Mais...
ouais, mais c'était pas la ville au complet. Là c'est la ville de New York au complet. Il n'y a plus une lumière... Tu sais, va pas me dire qu'un fil, là, ça marche pas de même. Là. C'est qu'ils ont été dans des zones où tu fais comme, ah, ça sert à rien d'aller là. Ça nous fait décrocher. Ça n'empêche pas, selon moi, que la scène, justement, la panne d'électricité amène la meilleure scène du film.
La scène la scène de cours.
Ah ouais. Quelle magnifique scène. Ça, quand le souvenir que j'ai le plus gravé dans ma tête là, de Ghostbusters 2, là, c'est quand ils remettent leur
soute.
Ouais, ben pas leur soute, juste
le
pack de protons.
Le proton pack.
Juste ça, là. C'est parce que, tu sais, ce qui est indéniable, là, puisque tu ne peux pas enlever à ce film-là, c'est que les Ghostbusters sont vraiment cool. Les dudes sont vraiment trop cool. Puis quand ils mettent ça sur le dos, là, instantanément, surtout quand j'étais petit, c'était comme...
Oh, ouais, quand ils allument. Là,
ouais, ils partent. Ah, ça,
c'est hot.
Mais la scène, ce build-up-là qui amène à ça, là, puis quand ils attrapent les deux, ils attrapent les deux fantômes, puis ils sortent de là, puis we're back.
Pis ça, c'est une scène qui fonctionne parce que une grosse affaire dans le film, c'est que cette rivière de slime-là qui coule sous la ville de New York réagit à la mauvaise humeur, essentiellement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il semblerait qu'elle s'en va à New York parce que justement, il y a beaucoup de mauvaise humeur. En fait, on fait le lien avec ce qu'on disait tantôt par rapport aux gens qui sont qui habitent New York. Bref, tout ça pour dire que. Il y a un pot de slime dans la cour, pardon, pas la cour, dans la salle dans le tribunal, voilà.
Ouais.
Et le juge commence à invectiver les coupables, ça, puis il monte le ton, puis là, il commence à être vraiment agressif. Et donc, la slime réagit à ça.
C'est cool.
Fait que là, ça fait un lien avec ce qu'il y a sous New York. Ça fait un lien avec les fantômes. Ça fait une évolution au niveau des personnages. Ça donne un apogée. Ça donne... Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent dans cette scène-là.
Puis le fait
qu'on
que...
aurait...
Excuse-moi. Le fait que les fantômes, ce soit deux gars qui ont été... Deux frères qui ont été condamnés à la chaise électrique par le juge en question.
Ouais. Ouais.
C'est... Je trouve juste ça, là, c'est comme ça, une espèce de boucle là, qui se ferme. Tu fais que, ah, c'est bien fait.
Ça fonctionne. Fait que, tu sais, si on nous avait proposé un build-up, bon, on en change un peu l'histoire du musée, tout ça, un build-up jusqu'à cette scène-là, et que de cette scène-là, on continue à avoir un crescendo jusqu'à une fin encore plus intéressante, ça aurait été le fun. Mais clairement, la scène du procès est le moment qu'on recherche dans le film. On pourrait faire pause puis arrêter le film là, tu sais.
C'est ça, parce que le rythme après ça, de ce qui se passe, t'as pas de crescendo, c'est constamment...
Non, ça redescend après, puis non, c'est ça, ça fait des montagnes russes plutôt, puis ça remonte jamais aussi élevé, ou ça devient jamais aussi intéressant que la scène du procès. Ouais.
Puis il y a des gens qui ont critiqué le slime, puis qu'il y a trop de slime. Selon moi, le slime, c'est mal exploité, c'est la seule affaire, il y a pas trop de slime. J'aime l'idée du slime, je trouve qu'il y a quelque chose de cool dans tout ce principe-là, que c'est un concentré d'énergie négative, là. Émanant du monde. Les émotions négatives ont causé ce jus-là.
Ouais. Ouais. C'est comme s'il avait essayé de gérer deux idées en même temps. La slime, la rivière de slime et la peinture.
Ouais.
Puis ça donne que les deux sont ensemble à la même place. Mais en tout cas, ça marche plus ou moins. Mais la rivière de slime est vraiment bonne. Puis moi, je trouve pas que ce soit un problème, la quantité de slime. Les gens oublient rapidement, je pense, ce qui est arrivé dans Ghostbusters 1, à quel point il y avait de la guimauve partout.
C'est ça.
C'est jusque-là, c'est de la slime, tu sais. Mais que serait un film de Ghostbusters si nos Ghostbusters ne se salissaient pas?
Ben oui, hein?
Parce qu'une autre scène que j'ai vraiment adorée, c'est quand ils décident de rendre les gens de New York heureux.
Ah ouais.
Puis ils se demandent quel symbole new-yorkais, on pourrait utiliser pour rendre les gens heureux. Puis là, ben, pour ceux qui n'ont pas vu le film ou qui l'ont oublié, ils lancent de cette espèce de...
De slime. Pardon.
De slime, merci. Sur,
mais slime à l'intérieur.
Oui, positif. À l'intérieur de la Statue de la Liberté. Et ils l'animent comme ça avec la musique, upbeat, tout ça. Puis ils se promènent dans New York, d'ailleurs, avec un joystick de Nintendo.
Ouais.
C'est absolument magnifique. Et puis là, tout le monde est content, tout le monde est heureux, ça applaudit des mains, tout ça. Puis là, l'énergie positive, donc, renaît. Mais justement, cette scène-là, avec les espèces de gros fusils à eau, avec la tank dans le dos qui chute de la slime. Ah, oh, j'aime ça, j'aime ça.
Mais puis toute la scène de la Statue de la Liberté qui marche dans New York, avec les gens qui chantent, puis qui trippent, je sais pas, il y a ce côté-là... Je pense que c'est un film aussi qui se veut... Faut pas le prendre trop au sérieux. Il y a un côté bon enfant, il y a un côté juste joyeux de comme...
Ben, c'est une comédie, hein, Ghostbusters.
Ouais, mais c'est qu'il y a quelque chose dans celle-là. Elle est très légère, ça se veut... En même temps, il y a plus de trucs d'horreur que dans le premier, celle-là. Là. Je veux dire, la scène avec les têtes là, sur les pics, là, pis tout, ça va un peu plus loin côté horreur. Mais il y a tout ce côté-là sur le tu sais, sur le cliché de New York, de comment les gens ont tellement de l'air à se faire chier à New York, mais en même temps, des gens à New York qui se tiennent puis sont très unis d'un autre côté. C'est ça qui est spécial, tu sais. Fait que c'est un film qui joue bien avec cette dualité-là de New York, parce que le moment...
Pas dualité.
Dichotomie. Merci. Mais parce que le moment que New York a besoin de se tenir, New York se tient. Puis on l'a vu, tu sais, je veux dire, on le sait avec ce qui s'est passé en 2001. Je veux dire, c'est la particularité de cette ville-là, que peu importe le désastre, tu sais, comment ça chie, comment ils ont l'air à pas être bien, mais en bout de ligne, ils se tiennent, puis ils sont ensemble, puis ils sont très fiers de leur ville, puis ils sont New-Yorkais, tu sais, c'est vraiment important. Fait que le film fait bien ça. Mais ouais, mais c'est ça, le reste au milieu, entre ces espèces de grandes choses-là.
Parce que, tu sais, il y a des très bonnes idées. Moi, je trouve que la rivière de Slime est vraiment bien utilisée. La scène avec le train sous la ville, c'est bien fait. La scène où est-ce que le Titanic accoste. Puis il y en a qui dit better late than never.
Mais toute cette scène-là, là, où le genre le slime remonte de la surface, puis ça se met à chier, là, c'est écœurant.
C'est vraiment c'est bon. Ça, c'est vraiment bien pensé. Mais c'est comme les détails qui nous mènent à ça qui sont pas bons.
Non. C'est exactement ça. Mais une autre chose que. En tout cas, une autre chose qui est bien importante dans ce film-là, puis qu'on je veux parler, c'est évidemment les acteurs, le cast. En commençant par. Moi, c'est ça a toujours été mon préféré. Bill Murray qui fait Peter Venkman.
Ben, s'il y avait un personnage principal dans le film, ça serait clairement Bill Murray, qui évidemment fait le trois quarts de ses lignes ad lib.
Mais je le trouve intéressant. Bill Murray, ce qu'il fait dans les deux Ghostbusters, c'est débile, c'est super bon. Mais c'est qu'il crée un personnage vraiment complexe aussi.
Mm-hmm.
Parce que c'est Peter Venkman, c'est un genre d'éternel ado. C'est un scientifique.
Puis d'ailleurs, c'est ça que Sigourney Weaver lui reproche.
Ouais.
C'est pour ça que la relation n'a pas fonctionné. C'est parce que c'est un éternel ado, puis elle veut quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui dit bon.
Mais c'est que tu te rends compte, il est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est un éternel ado, mais c'est comme un peu sa manière de dealer avec la vie. Tu sais, quand ça chie, quand c'est quelque chose, c'est sa manière de dealer avec les affaires, c'est un peu d'être niaiseux. Puis d'être... Sauf que
de
c'est
faire
ça.
Comme si de rien n'était. Ben, pas comme si de rien n'était, mais de tourner les choses à la blague.
Ouais, mais ce que je trouve hot dans ce film-là, c'est qu'il change pas, il devient pas plus responsable. On dirait qu'il fait juste s'en servir. Je sais pas si tu comprends, c'est comme s'il assumait. Mm-hmm. Il faisait que, ah oh, man, de la merde, là. C'est genre, je suis comme ça. Puis même quand ils se battent contre Viggo à la fin, puis tout ça, il continue à faire des niaiseries. Il continue à être là. Mais tu vois qu'il prend comme. En charge la situation pareille. J'adore ce qu'il fait Bill Murray là-dedans.
Une autre belle scène, c'est quand il prend la photo en photo. La peinture en photo, pardon. C'est magnifique.
Ah, quand il joue avec le petit. Toutes les scènes où
quand il joue avec le petit.
Toutes les scènes avec le bébé, là, je le trouve hallucinant. Il y a une douceur, tu sais. c'est vraiment, tu fais comme. Il y a un côté que t'es comme. Hey, il est hot avec le petit.
Je sais pas s'il est papa, hein, Bill Murray.
J'imagine que oui. Dan Aykroyd, qui fait Ray Stantz.
Qu'est-ce que t'as pensé de lui?
Bah, c'est fidèle à ce qu'il a fait dans le premier film. Je veux dire, Ray, c'est le. C'est un peu naïf. Si Peter, c'est un ado. Non, mais si Peter, c'est un ado, ben Ray, c'est plus un. C'est un enfant. Il n'y a pas de... Ouais, il y a un côté d'un enfant, il peut pas... Tu sais, il est pas capable de garder un secret. Tu sais, il est incapable de cacher quoi que ce soit. On dirait qu'il peut pas voir les mauvaises intentions des enfants, tu sais, des gens. C'est comme tout... Il comprend pas, il se fait... je sais pas...
Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est juste que je t'écoutais d'une oreille et avec mes yeux, avec mon autre oreille, j'étais sur IMDb.
Quelqu'un te parlait à l'oreille. Mais...
C'est Siri qui me lisait de l'autre côté.
Ah ouais.
Et Bill Murray, je confirme, il a 6 enfants.
Hey boy!
6 enfants, le petit monsieur.
Il aime ça, les enfants.
Et j'aime bien, tu sais, dans IMDb, tu sais, il donne plein de faits cocasses, tu sais. Puis un de ses surnoms, c'est Bill the Murricane.
Hurricane.
C'est comme un ouragan, ce gars-là, quand il pense.
Bon.
En tout cas, mais oui. Donc, Dan Aykroyd, solide performance. C'est pas une de ses plus marquantes, mais très efficace, puis il répond bien aux besoins que son personnage nous fait, que son personnage doit nous faire ressentir.
Oh, c'est pas plus, c'est rien d'exceptionnel. Il reste quand même très pareil à ce qu'on voit dans le premier, c'est tout. Harold Ramis qui fait Egon Spengler. Tu vois, moi j'ai trouvé qu'il y avait plus de place dans celle-là. On l'entendait plus parler.
On en a parlé un peu tantôt, mais moi je trouve toujours qu'il manque de place, ce gars-là. C'est comme si le nerd il pouvait pas être dans le centre de l'histoire. T'sais.
Ouais, peut-être plus que c'est pas un si bon acteur que ça, fait que il voulait aussi, pas qu'il parle trop. Je sais pas. Parce qu'il j'sais est pas... Je le trouve pas débile comme acteur.
Non, ben tu sais, est-ce qu'on lui a donné vraiment la tribune pour défendre ses capacités?
Je sais pas, man. C'est pas lui qui a écrit le film en partie. Avec Dan Aykroyd.
Fait que
t'sais. Ouais. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. C'est l'œuf ou la poule, là. On s'entend, là. C'est ça. Là. Mais je trouvais que dans celle-là, on lui donnait plus l'occasion de parler, c'est tout. Là. Mais c'est que c'est très flat. Puis je sais pas si c'est parce que c'est le personnage qui est comme ça. Ou si c'est juste qu'il est de même. Tu vois, c'est... Puis pour moi, c'est problématique quand tu peux pas savoir si c'est le personnage ou c'est l'acteur. C'est parce que l'acteur, il fait pas une assez bonne job. En tout cas, ça, c'est mon avis.
C'est pas mal ça.
Ernie Hudson, qui fait Winston Zeddemore, lui, il n'y a aucun doute qu'il y a plus de place dans celle-là.
Ben, tu sais, on se rappelle que dans le premier Ghostbusters, c'était supposé d'être...
Eddie Murphy.
Eddie Murphy, merci. Et donc, ça a pris du temps à ce que ça arrive avec Eddie Murphy. Fait que le tournage avait commencé, fait qu'ils ont juste pas mis son personnage. Puis là, subitement, le personnage de Winston Zeddemore,
ouais.
Se pointe, puis là, bon, c'est ça. Parce que finalement, ça n'avait pas fonctionné avec Eddie Murphy. Mais dans le 2, il est là. Fait qu'on ouais. le voit tout de suite depuis le début. Puis il y a vraiment une grosse place. Puis autant dans le premier, je trouvais qu'il était un peu le décalé du groupe parce que c'était le sceptique.
Ouais.
Dans Ghostbusters 2, on dirait que c'est lui qui amène une drive, surtout dans les premières minutes du film, ce qui fait du bien.
Oh, 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 oh. Il y a une présence. Ernie Hudson, ça, peu importe ce qu'il fait, je trouve qu'il y a une présence, il y a un certain charisme là, comme acteur. Puis je dis, c'est la même chose qu'avec Bill Murray, dans un sens aussi. Là. Puis Dan Aykroyd, puis Harold Ramis, ils en ont moins. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont moins. Mais ouais, il est là, il est intéressant, il amène de quoi, il y a une profondeur. Il n'est pas juste là pour occuper une place ou genre occuper le rôle du sceptique juste pour contrebalancer un peu les autres. Là. Il y a. Sa personnalité amène au groupe.
Mm-hmm.
Puis il est là tout le temps. Mm-hmm. À chaque scène là, que les Ghostbusters sont là, il est là. Ah, sauf quand il creuse le trou. Parce qu'il est pas là ce soir-là. Puis quand il creuse le trou. Puis c'est qu'il est pas là dans la scène non plus du tribunal.
C'est vrai.
C'est juste les trois originaux qui sont là.
Je me souviens plus pourquoi il est pas là d'ailleurs. En tout cas, peu importe. Peu importe, c'est des détails. On en arrive à Sigourney Weaver.
Je sais pas. Je sais pas quoi penser puis quoi dire. J'adore Sigourney Weaver.
Moi, je pense que c'est une très bonne actrice, mais qu'encore une fois, on se retrouve avec un rôle féminin dans un film qui a zéro espace pour briller.
Elle en a beaucoup moins que dans le premier.
Beaucoup, beaucoup t'sais... moins que dans le premier. En fait, c'est à se poser la question, mais qu'est-ce qu'elle fait là, tu sais? Pourquoi pas une autre femme? Pourquoi pas un autre bébé? Pourquoi pas... Pourquoi elle encore? C'est parce que ça prenait un gros nom, c'est sûr. Mais tu sais, si quelque chose... les Defenders de Netflix nous ont appris quelque chose, c'est que Sigourney Weaver est capable d'être vraiment bonne. Puis même dans Alien, on a déjà fait la critique de Alien.
Ouais, elle était écœurante.
Vraiment, vraiment hallucinante dans Alien. Mais là, après ça, on se retrouve 8 ans plus tard, 10 ans plus tard, je pense. Le premier passager, c'est...
Alien, c'est
le 8e passager, pardon, c'est 79, je pense.
Ouais, je pense que c'est 79.
Je me souviens plus. Bref, ouais, pas beaucoup de place, pas non. beaucoup de chance de briller.
Ben, il n'y a pas de chair. Je parle pas de Sigourney Weaver, qui a pas beaucoup de chair autour de l'os, là, mais... mais... Non, il n'y a pas beaucoup de chair autour de l'os dans ce qu'elle nous donne. Et dans ce qu'elle avait à faire, ce qu'elle a reçu, elle aussi. Tu sais, il y a la scène... Je trouvais ça drôle, parce que la scène où elle se met à... Elle est en train de se déshabiller et donner le bain au petit. J'avais l'impression que c'était comme... OK, c'est juste parce que t'as Sigourney Weaver, puis là, t'as... En tout cas...
Ouais, c'est ça.
Je trouvais ça vraiment gratuit, mais...
Puis la scène aussi où est-ce qu'elle se court après avec Bill Murray, puis elle a juste une serviette autour.
Ouais.
Et qu'on passe proche de voir un téton.
Ouais, c'est, j'étais comme un peu mal à l'aise pendant cette scène-là. Je me demande,
moi aussi.
Je me demandais dans la vraie vie, est-ce que cette scène-là se serait produite?
Non, jamais, jamais, jamais. T'sais? À moins que la fille soit vraiment très intéressée en toi. Là. Je te le dis, Sébastien, là.
Non, mais je sais, là. Je veux dire, le gars, il est là en train de jaser avec son ex.
Ben oui. En plus.
Ouais, en tout cas, c'est un peu... Mais écoute, mais pas longtemps après, ils sont revenus. T'sais, tu vois finalement qu'il était probablement très, très, très intéressé, là. Mais quand même, je trouvais ça awkward comme ça.
Ouais, effectivement.
Parce qu'elle a l'air bien trop à l'aise.
Mm.
Vraiment trop. Puis d'ailleurs, je trouve awkward l'appartement de Peter Venkman avec le...
Avec des fenêtres dans le milieu de la place.
La salle de bain vitrée, là, ouais. C'est un peu weird, mais bon.
Mais par contre, ça donne une belle ligne de Bill Murray qui est... tu sais, pour toi, il y a juste propre pis sale.
Ouais.
Mais pour de vrai, il y a un paquet de nuances entre les deux.
C'était
cette chemise-là... Ah, oh, 20 minutes à corde à linge, ça va être parfait.
Non, mais pas sa corde à linge. 20 minutes accrochée à la fenêtre, là, tu sais. C'est beau. Rick Moranis qui fait Louis Tully.
Un rôle Rick Moraniesque.
Ouais, écoute, il compte... Ça, c'est une autre affaire qui est drôle. Dans le premier, c'est un comptable. Dans le deuxième, c'est un avocat.
Ouais.
Je suis... Pourquoi il a encore changé de job?
Peut-être que s'il y avait eu un Ghostbusters 3, tu sais, puis que et Sigourney Weaver et Rick Moranis avaient fait quelque chose encore une fois de différent. Peut-être que là, tu sais, ça aurait fait comme OK, ouais, il change de job tout le temps, c'est drôle, il y a un running gag, tu sais.
Ouais.
Mais là, c'est juste weird.
Je te confirme. C'est juste
puis,
weird.
Ben ça, là, il est avocat, puis là, il a eu... Parce qu'il a fait son diplôme, genre, par correspondance, ou je sais pas trop.
La nuit, à l'école du soir. Puis là, et c'est la réponse de Dan Aykroyd que j'adore. Il dit, great, we were arrested at night.
C'est magnifique.
I got my diploma at night school, great. We were arrested at night. Mais, ouais, mais il est bon. Ça,
ben, Rick Moran, l'acteur est bon, mais l'acteur le personnage est, bon, mais... est tellement poche.
Ouais, il est encore moins là que dans le premier parce que.
Mais il est encore moins là que dans le premier parce qu'évidemment, on se rappelle que dans le premier, c'était de Keymaster. Non, en tout cas, je les inverse tout le temps parce qu'il demande à l'autre s'ils sont. En tout cas, bref.
Je pense que c'est le Keymaster, ouais.
Keymaster, parce que. Are you the gatekeeper? Ouais, c'est
ça. Le Keymaster, c'est ça qu'il demande. Ça.
Mais ils ont comme essayé d'y donner de la place. À Rick Moranis en le faisant devenir un cinquième Ghostbusters. Ouais. Puis ça marche pas. Ou c'est peut-être juste une joke. Encore une fois, s'il y avait eu un troisième,
de...
ça aurait été cocasse, tu sais. Mais...
C'est parce que le problème avec ce personnage-là, c'est que c'est un comic relief dans une comédie.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que c'est comme trop. Les autres font des jokes, lui, il est niaiseux. Mais Rick Moranis est vraiment bon, pareil. Annie Potts qui fait Janine Melnitz. J'aime ça, je l'adore, elle. C'est dommage parce qu'on la voit pas tant dans son rôle de secrétaire dans le premier qui était vraiment bon. Là.
Elle était vraiment l'espèce d'employé blasé qui donne les messages puis qu'elle a vraiment des journées plates puis qu'elle fait ressentir. Mais là, il y a comme l'espèce d'histoire d'amour entre elle puis le personnage de Rick Moranis. Moins savoureux. Moins savoureux.
Et je veux terminer en parlant de Peter McNichol qui fait Janos Poa.
C'est pas Poha?
Je sais pas, man. C'est pourri. C'est plus ça que je devrais dire. Pas good. On s'attend à pas Peter McNichol. Peter McNichol, il se transforme dans ce film-là. Là. Je veux dire, Peter McNichol, il parle pas de même dans la vie. Il y a pas de la. Il y a de la.
Mais c'est un rôle de composition. C'est lui qui est venu avec cette idée-là, ce concept de personnage-là.
Ah, il
c'est lui qui a comme inventé dans l'accent, puis qui a inventé le pays, puis ça. Ça vient tout de lui, tu sais. Fait que l'acteur est bon, le personnage est exécrable.
Ouais.
Mais comme l'un vient de l'autre, fait que. Moi, non.
Mauvaise
idée. Ça se passe pas.
Mauvaise idée. En tout cas, là, man, à chaque fois qu'il parle, j'ai le goût de... J'ai comme tu es là, quelqu'un, tu sais. Ah, tu sais, je suis déçu, il survit. C'est ça qui est plate dans Ghostbusters. Tu sais, les humains, ils survivent.
T'sais. Ben, en théorie, les fantômes aussi.
Non, mais ils sont comme détruits, non? Je veux dire...
Ils sont emprisonnés.
Viggo... Non, mais Viggo, là...
Non, il disparaît.
Puis tu sais, Zool, là, puis...
Ils disparaissent.
Gozer, là, tu sais.
En tout cas.
En tout cas. Les effets spéciaux, là, ils ont mal vieilli. Ils ont vraiment mal vieilli. Vraiment, beaucoup mal.
C'est pas bon.
Pas bon. À part le Titanic, les fantômes sont pas si pires, mais...
Non. Ben, c'est-à-dire, il y a différentes sortes de fantômes, je pense.
Tu sais, check les fantômes, là.
Ouais, le Titanic, ça, c'est fonctionnel. Les fantômes qui sont des vraies personnes cadavériques fonctionnent. Les fantômes qui ont été créés de toutes pièces par des marionnettes informatiques,
je sais pas quoi, là. Slimer.
Slimer. Vraiment pas bon.
Non.
Entre autres, la scène de la cour, du tribunal, là, on en a parlé tantôt, les fantômes en tant que tels sont vraiment pas bons.
Tu trouves?
Ah non, j'ai vraiment pas aimé ça.
Moi, je sais, moi,
autant je trouve que la scène est efficace, là, mais c'est juste que je trouve que il n'y a vraiment aucune constance entre les fantômes.
Non.
Entre le type de morphologie des fantômes. T'sais. C'est quoi le lien entre le vert, là,
Slimer.
Son... Slimer, voilà. Entre Slimer et les fantômes du Titanic, c'est quoi le lien?
Ben, en fait, ce qui est weird, c'est que là, 90% des fantômes qu'on voit, c'est des formes humanoïdes. Mm-hmm. Le seul, c'est Slimer qui ne l'est pas.
Puis tu sais qu'ils l'ont remis comme ami dans le film parce que, évidemment, entre le premier et le deuxième film de Ghostbusters, il y a eu la télésérie où il était le pet, essentiellement, l'animal de compagnie des Ghostbusters. Donc, ils se sont sentis obligés de le rajouter après coup. T'sais. Ils ont juste engagé Moranis pour faire cette scène-là en post-production. T'sais.
Ah, c'est un peu mauvais. Puis c'est ça, il fit pas, il a pas rapport. Mais moi, comme les deux frères, là, les deux fantômes dans la cour, je les aime, moi. La seule affaire qui me dérange, c'est le fait que leur taille est comme pas constante.
Mm-hmm.
Tu sais, quand ils soulèvent la table, man, tu fais que shit, il est huge, là.
Mm-hmm.
Puis là, après ça, tes voix, puis par rapport aux autres, là, tu fais que ah non, ils sont comme plus petits tout à coup, là.
Mm-hmm.
C'est juste ces affaires-là qui me gossent. Mais moi, tous les fantômes, sinon, je les adore. Le fantôme Jugger, là.
Mm-hmm. Mm-hmm.
C'est vraiment hot. C'est super drôle, en plus, comme scène.
Ouais, c'est vraiment une très bonne scène.
Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il touche le... C'est ça aussi. C'est un peu inconstant. Les fantômes, ils passent à travers les affaires, mais ils sont capables de soulever des trucs ou de pousser le monde puis de tasser. Fait que c'est comme c'est quoi, quand ça leur tente, ils peuvent être solides. Quand... En tout cas, ça m'a toujours... J'ai jamais compris.
Ultra Ghost.
Oh, c'est ça, il faut qu'il se concentre. Il faut qu'il pratique ça. Mais, man, le fantôme Jugger, là, qui prend son pouls, pis tout, là. C'est un cœur, hein.
C'est assez hot. Pis Bill Murray, qui est juste assis sur le banc de parc à côté.
Avec la trappe, là, pis qui attend qu'il pèle dessus.
Ah, oh, c'est magnifique.
Avec Ray, avec son espèce de. Son espèce de goggle, là, pis son cigare dans la bouche, là. Qui dit, non! Mais le montage, tout ce montage-là là, de deux autres qui attrapent des fantômes, c'est bon. Là,
c'est sinon, costume, décor, est-ce que tu as des choses particulières à dire?
Moi, ce que j'ai adoré, c'est l'uniforme foncé. C'est pas noir, là, c'est genre un genre de bleu marine. Pourquoi ils l'ont pas porté plus? Je me suis rendu compte que je préférais cet uniforme-là à l'uniforme classique beige des Ghostbusters.
Ok.
Je trouve que ça a un look plus... Je sais pas, ils ont l'air plus cool. Puis le fait qu'ils ont rajouté, tu sais, l'espèce de truc que les pompiers ont, là aussi, là, l'espèce d'alarme jaune, là, qu'ils ont.
Ouais.
C'est niaiseux comme petit détail, là, mais c'est comme. Ah, c'est cool, tu sais, ça. C'est un côté plus réaliste à leur équipement, tu sais.
Puis qu'est-ce que t'as pensé de l'Ecto One? Parce que sur l'auto original, elle avait. Tu sais, c'était le fantôme qui sort du signe rouge avec un 1. Puis là, donc, c'est le fantôme qui sort avec un 2, comme on voit en ce moment dans la suite. Il y a ça sur le bord de l'Ecto One. Est-ce que ça t'a dérangé autant que moi?
Oui, ça me dérange. Ça me dérange que leur affiche qui est, tu sais, l'espèce d'affiche de sur le voyons, sur la caserne où ils sont. Mm-hmm. Ou si le fantôme il fait un 2, je suis comme, sérieux, man? Je veux dire, tu sais, mettons que
ça n'a aucun lien dans l'histoire.
Ça n'a pas rapport, là. C'est, en tout cas, c'est comme une espèce de marketing pour le film dans le film. Ça me gosse.
Ouais, ça, c'est pas génial.
Puis la Ecto One est meilleure dans le premier film. Dans le deuxième, là.
Ah, j'ai pas vraiment prêté attention à ça, je dois avouer.
Les lettres, là, affichées sur le côté, ça, ça me fait pas triper. Là.
Voilà, on est rendu.
Ben. Vas-y, David.
Mon cher Sébastien, cette semaine, j'ai une petite colle pour toi que je dois aller retrouver parce que mon iPad est décédé.
Bon.
Mais quand même, en attendant, je peux aller te poser la question. Et voilà, je l'ai. Donc, tantôt, je t'ai dit que j'avais le nom du méchant, qui est Viggo von Humboldt-Dutschendorf.
Mm-hmm.
Pourquoi est-ce que ce méchant-là dans la peinture s'appelle, son nom de famille est Dutschendorf?
Parce que le dude qui est là, c'est un lutteur allemand.
Non.
Indice.
Il y a un gros lien à faire avec la possession du bébé.
Parce que le bébé est allemand.
Je sais pas. Pas important dans l'histoire.
Un autre indice.
Ça serait redondant pour le bébé de changer de nom. C'est pas sûr.
Dutschendorf, ça veut dire Oscar?
Non.
Hein? Ça veut dire bébé allemand? Je sais pas. Un autre indice?
Le bébé, en fait, c'est deux bébés.
Ouais, c'est des jumeaux.
C'est ouais. Deux jumeaux, ouais.
Ouais. C'est-tu leur nom de famille, genre?
Et voilà!
Oh!
6 sur 10, Sébastien. Oh, ouais, non, mais c'est un winner, c'est un winner. C'est 60%. Donc, c'est ça. Les deux bébés, en fait, s'appellent William T. Raker, non. William T. Dutschendorf et Henry J. Dutschendorf, deuxième du nom. Sauf que, malheureusement, William, si je ne me trompe pas, William est décédé le 24 juin 2017.
Oh,
le 14 juin 2017. Là. Il est mort, ça fait vraiment, vraiment pas très longtemps.
Jeune.
Et puis, oui, il était assez jeune. Et puis, en fait, il est mort parce qu'il était schizophrène. Et puis, il a eu un épisode suicidaire.
Et puis, il a réussi. Ça, tu viens de créer un...
Ouais, hein, je viens de casser ça.
Ouais. Écoute, moi, j'ai une question pour toi. Je suis curieux de même. Est-ce que tu sais que Ghostbusters 2 a été le 8e film qui a fait le plus d'argent en 1989? Tu es capable de me nommer dans les... 7 films devant lui.
1989. Est-ce que j'ai droit à une liste de films de 1989?
Ok, je vais te donner les 10, ok? Puis essaie de me les remettre dans l'ordre.
T'as peu. Vous allez entendre des clics et clics et clics et clics.
Ok, mettons.
Vas-y.
Born on the 4th of July.
Mm-hmm.
Batman.
Mm-hmm.
La petite sirène. Indiana Jones and the Last Crusade. Évidemment, Ghostbusters 2. Look Who's Talking. Back to the Future Part 2.
Non, t'as peu. Back to the Future 2. Oui.
Honey, I Shrunk the Kids.
I am in Rick Moranis.
Little Weapon 2. Dead Poets Society. Est-ce que t'as les 10 ou il t'en manque un?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10.
Bon.
Et tu me dis que, donc, sur cette liste-là,
Ghostbusters,
Ghostbusters est le deuxième.
Et le huitième.
Huitième, excuse-moi.
Ouais. C'est quoi le film qui a fait le plus d'argent cette année-là, tu penses? Roulement de tambour.
Hey, moi, je suis pas habitué là, à ces questions.
Come on, regarde la liste. Là.
J'irai avec Little Weapon.
Non!
C'est... Batman.
Non, c'est Indiana Jones and the Last Crusade. En deuxième place.
En deuxième place, là, j'irai à ce moment-là avec Dead Poets Society.
Non!
Oh.
C'est Batman.
Ben, j'étais pas loin avec mon Batman.
Continue avec la troisième maintenant.
Dead Poets. Non, La Petite Sirène.
Non! Hey, ça va pas bien son affaire. Back to the Future. Quand tu vois la liste, par exemple, à un moment donné, tu fais comme ah ouais, c'est logique quand même. Indiana Jones, Batman. Le quatrième. Celle-là, ça m'a étonné un peu.
Born on the 4th of July?
Non, c'est Look Who's Talking. On continue, cinquième place.
Je vais y aller avec... Non, ça va être après. Ça va être après. Donc, j'irai avec Little Weapon.
Non, pas loin, mais c'est Dead Poets Society. C'est quand même une bonne année de cinéma quand je regarde ça.
Ouais, ouais,
sinon,
non,
sixième place. Donc, je veux que t'en aies moins un.
Little Weapon.
Ouais! Ding, 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 ding. Yeah! On continue. Septième.
Ensuite de ça, j'irai avec Born on the 4th of July.
Non.
Ouais, non.
C'est Honey, I Shrunk the Kids.
Ah ouais, hey, moi je pensais pas que ça aurait fait tant d'argent.
Ouais, Ghostbusters 2, évidemment, 8e. Et les deux derniers, est-ce que t'es capable de mettre dans le bon ordre?
Born of, on the 4th of July.
Non.
Ah,
c'est
ouais.
The Little Mermaid en premier. Et Born on the 4th of July. Et c'est 10e. Mais quand même. Mais
je suis exécrable.
Mais c'est pas évident, mais c'est toute une année de cinéma. Par exemple, c'est pour ça que je voulais faire ces 18 films-là. Tu fais comme wow.
Parce qu'on s'entend que même le 10e dans cette liste-là, c'est un très bon film, tu sais.
Oh, Born on the 4th of July, ouais, c'est... En fait, c'est meilleur que Little Mermaid, Honey, I Shrunk the Kids, Look Who's Talking. Dead Poets Society, un autre très bon film.
Ah, c'est tellement bon, c'est vraiment triste, là. Ah, c'était pour...
Fait que, hein, tu sais, ouais. Bon, écoute, c'est une belle année de cinéma. On va continuer.
Surtout pour Rick Moranis.
Ouais, avec... Les extraits. Écoute, je me suis amusé, j'en ai mis 12 parce que hein, c'était un spécial d'Halloween. Fait que je me suis dit, je vais être spécial de mes extraits, mais bon, c'est Halloween, on se fait plus tard. On va commencer par les enfants. Tu sais, on dit aujourd'hui que les jeunes sont pas polis. Ils étaient pas ben plus polis, hein, c'est 89.
You know, my dad said you guys are full of crap. Jason.
Well, some people have trouble believing in the paranormal.
No, he just says you guys are full of crap and that's why you went out of business.
Mais c'est ça que je trouve un peu étrange dans ce film-là, c'est que 5 ans plus tôt, là, il y a une espèce d'immense bonhomme en marshmallow qui se promenait dans la ville. Ils ont détruit ça, les portes, il y a un building qui a explosé, c'était les sauveurs du monde.
Ouais.
5 ans plus tard, ils sont full of crap.
Ouais.
Regardons, ça vient d'où, ça?
Je comprends pas. C'est un peu weird, ça. Plus ça change.
You know, I'm a voter, aren't you? Supposed to lie to me and kiss my butt?
Il y en a qui perdent des élections à cause de fin de même. Ouh! Mais.
Commentaire éditorial de la part de Sébastien Belbu.
Ouais, ça. C'est pas une enfance facile, là. Okay.
You mean you never even had a slinky?
We had part of a slinky. But I straightened it.
Ça, j'adore ça quand même. Ça, c'est vraiment un bon gag. Tu sais, où est-ce que Egon, là, il est cartésien là, jusqu'au bout des ongles. Puis le petit Slinky, là, non, 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 ça m'énerve, ça, c'est twisté. Non, 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 on va le mettre drette. J'adore ça.
Tu vois, c'est dans ce sens-là que je trouve que Egon a plus de place dans ce film-là. Parce qu'on l'entend plus souvent dire des affaires de même.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais. Ben, ouais, ouais. Mais tu sais, c'est pas de l'évolution du personnage.
Non. Un autre beau moment d'Egon.
Yo!
Je pense que ça va devenir...
C'est qu'ils font le trou, ça?
Ouais. Écoute, je pense que ça va devenir mon affaire, quand, ma sonnerie quand je vais recevoir des textos, tu sais.
Yo!
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 Surtout que c'est pas sa voix, tu sais.
Yo!
J'adore ça. On continue. Ah oui, un moment touchant que nous offre Louis Tully, a.k.a. En fait, c'est Rick Moranis.
I was stuck in an elevator for 2 hours and I had to make the whole time. But I don't blame them, because one time I turned into a dog and they helped me. Thank you.
C'est vraiment la fin. This one time I turned into a dog and they helped me. Thank you. Puis c'est la face du juge après qui est comme... la bouche ouverte que... Hein?
Ouais.
Puis que genre, il revient...
Encore sur le fait que... On revient sur le fait que... Il y a pas si longtemps que ça, il y avait des affaires vraiment weird qui se passaient dans la ville puis plus personne a l'air de s'en souvenir.
Ouais, c'est bizarre. Mais en même temps, c'est New York, man. C'est New York. Ouais, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas mis des rires. Mais genre, c'est une éternité. Genre, je pourrais pas faire une compilation pour les 50... La deuxième batch de 50 épisodes que j'avais faite. À moins que je me mette à en mettre plein. Là. Et ça, c'est une belle banque de rires. Là.
C'est quand exactement? C'est quand il essaye de faire bouger le toaster, ça?
Non, c'est dans la scène, encore une fois, en cours. Et les deux fantômes ont disparu. Puis là, le premier qui se marrait, c'est Peter Venkman. Il rit. Puis là, les deux autres se mettent à rire aussi. Puis là, les fantômes réapparaissent après un bout. Là. Ah, ça c'est vrai.
You mean this stuff actually feeds on bad vibes?
Like a cop in a donut factory.
Surtout que, tu sais, dans les années 80, c'était vraiment le gag, là. C'était super drôle. Mais aujourd'hui, les policiers, là, man, sont shapés, là.
Il y a moins de gros policiers aujourd'hui que dans les années 80, là. Ça, je vous le confirme. On va continuer avec... Quelle horreur!
Oh non! Oh non! She cleaned.
J'aime les... Oh non! Il y en avait un autre avant, mais il y a un gros silence, mais je l'ai pas vu. Il est encore... Oh non! Je que quand il cherche ses chemises, je dis, elles sont où? Dans le panier à linge sale. J'ai un panier à linge sale.
C'est ça.
Ouais, en tout cas, mais ça, c'est ma réaction à chaque fois que j'entends ça, man. Je suis comme, man, t'imagines-tu être à la place de celui qui va vivre ce qu'on va entendre, là?
Hello?
C'était écœurant. Parce que toute la scène, pour ceux qui ont jamais vu le film, ça se souvient plus. C'est qu'en premier, Ray fait comme « Hello !» Là, t'entends l'écho « Hello !» Là, t'as genre... Egon fait « Hey !» Ça arrive autour de Winston. « Hello !» Il silence, puis c'est ça. « Ouais !» C'était écœurant. C'est là qu'ils font comme « Je pense qu'on va rechercher nos packs de protons. » Finalement, ils se rendent jamais.
C'est la scène du train souterrain dont on parlait.
Ah ouais, mais la scène du train, la face de Ernie Hudson dedans.
Ouais, c'est vraiment bon.
C'est drôle.
Avec les cheveux, là, en tout cas, c'était cœur.
Puis là, genre, il comment je pense que c'était le train là, qui derrière il y a eu des centaines de morts. Est-ce que t'as repris le numéro de la locomotive? Non, j'ai pas eu le temps, tu sais. Je pense pas que c'est exactement ça l'histoire, en fait.
So the seven little dwarfs had a limited partnership in a small mining operation, and one day a beautiful princess came to live with them, and they bartered housekeeping services for room and board, which was a real good deal for them because they didn't have to withhold social security or income tax or nothing, which you're really not supposed to do, you see, but for the purposes of this story, I think it's okay.
Mais tu sais, le delivery de Rick Moranis est hallucinant.
Ah ouais, il est fort.
Tu sais, il prend pas une respiration, là, tu sais. C'est ouais. Comme, ben, en fait, il en prend, mais... Il est parti pendant quoi, 15 secondes?
Ah ouais, 17 secondes.
Bravo, bravo.
J'aime ça, moi, les gens qui se font casser dans les films, là, comme lui, là.
There seem to be 3 million completely miserable assholes living in the tri-state area.
Oh, please.
I beg your pardon, 3,000,001.
Hey.
Cassé. Mais ce personnage-là, le bras droit du maire, pourquoi?
Ben, ça prend... C'est pour remplacer... Dans le premier, c'était Beck, là, le gars de l'environnement. Ouais. Mais c'était un peu pour ça. Là.
Mais non.
Non.
Puis tu sais, le maire qui les a aidés dans le premier Ghostbusters, il veut pas prendre leur service quand il y a des problèmes avec le deuxième. Fait que l'assistant du maire, lui, qui a comme aucun souvenir de ça, les envoie dans un hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que c'est ça?
Ah, je sais. Je sais.
Ce tricotage d'histoire-là, je trouve ça ridicule. Voilà, c'est dit.
Maintenant, vrai 2.
Well, better late than never.
C'est la réaction de Cheech. C'est Cheech devant Marin Titanic, qui ouais. fait le gars au port puis qui voit le Titanic qui arrive. Tu sais. Les deux, ils se regardent. Better late than never.
Magnifique.
J'adore la réaction. Musique!
Cue the music.
J'aime la musique.
Sébastien, je me tanne juste pas de ton bumper de musique.
T'as-tu remarqué qu'on entend le gars qui joue la flûte, du bad flute, là, on entend du vent dans le micro?
C'est vraiment, ah, c'est vraiment horrible.
C'est Randy Edelman qui a composé la musique de Ghostbusters 2. C'est pas bon.
C'est vraiment... Non. Vraiment rien à dire.
C'est
là,
pas ça.
Ça fait ni peur, ni donner une dimension comique, ni remplir l'ambiance. Ça sert à rien.
Vraiment. À argien, comment dire en bon français. C'est pas bon. C'est pas ça. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la part de... C'est de
la merde.
C'est de la merde. Fait que je pense que ça vaut pas la peine de passer plus de temps à parler de ça. C'est juste mauvais.
Et voilà.
David.
He scores!
Je vais y aller d'un généreux 7 sur 10. Parce qu'on a parlé de mauvaises choses dans ce film-là, entre autres le rythme. Mais il y a quand même des très bonnes performances d'acteurs. Il y a des très bonnes scènes. L'humour est là. C'est pas un problème, mais c'est sûr que... Comment je pourrais dire? C'est pas un film que je réécouterais fréquemment. Mais une fois par 10 ans. Ouais, c'est bon, ça fait le job.
Écoute, je suis d'accord avec toi. C'est pas un super bon film. C'est efficace, c'est correct. C'est un 7 sur 10 pour moi aussi. C'est moins mauvais, je pense. C'est moins pire que ce que les gens disent. C'est pas plate à regarder. Tu sais, ça se regarde bien. Mais c'est juste, il manque un fil conducteur, il manque quelque chose qui unifie le film comme le premier. Puis je pense que c'est ça. C'est vraiment le commentaire de, on dirait qu'ils ont filmé la première ébauche du scénario. Ça ressemble à ça. T'sais. David, est-ce que tu as des salutations ou des anniversaires pour aujourd'hui?
C'est exactement ça que je suis en train d'aller regarder. Donc on a Emma Stone aujourd'hui.
C'est laquelle, celle-là? Non?
C'est la fille qui joue dans La La Land.
Ah oui, ce film qui... Cette séance de masturbation hollywoodienne. Mais... non, mais... Écoute, je l'ai pas vu.
Bon.
Je l'ai pas vu, mais...
Ah, Sébastien, arrête de faire ça. Arrête de passer des commentaires sur des affaires que tu sais pas de quoi
non,
tu parles.
Non, 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 je parle pas... Moi, c'est pas du film. Moi, je dis pas... Je parle pas du de la qualité du film quand je dis ça. C'est simplement le fait qu'il a gagné le score du meilleur film. C'est plus là que je trouve que c'est...
Mais c'est vraiment bon.
Ouais,
c'est
mais
vraiment bon,
le meilleur
Sébastien.
Des 10 films qu'il y avait cette année-là?
Écoute, je les ai pas tous vus. J'en ai vu une couple. Je les ai pas tous vus. Puis La La Land, je comprends à quel point c'est complexe à monter cette affaire-là. Je comprends pourquoi ça a gagné et je suis d'accord.
OK.
Mais toi, t'as vraiment tendance à juger avant
non,
d'avoir...
Non, mais c'est
là.
Juste que j'ai de la
comme
misère...
Comme mon concert sur les jeux vidéo que t'as blasté puis t'as même pas vu le concert. T'as
ah
juste
non,
vu
mais je suis toujours de l'avis que ça c'était pas bon.
C'était un bon concert.
C'est pas de la bonne musique de jeux vidéo, puis c'est ça.
C'est ça, je dis, tu juges puis, sans avoir vu.
Non, mais je la connais, cette musique-là, c'est pour ça. Je l'ai déjà écoutée. Mais en fait, je juge plus le fait que tu t'encourages des... Tu sais, c'est comme encourager des gens qui font travailler du monde à l'extérieur. Mais bon, ça c'est comme... Yeah, on va jouer de la musique d'Ubisoft, tout ça. Où est-ce qu'ils font enregistrer leur musique? En Europe. C'est un peu plate, tu sais. Est-ce que, puis la musique d'Ubisoft est composée par des compositeurs qui sont pas québécois. C'est un peu plate. T'sais.
Mais non, mais c'est ça l'affaire, Sébastien. Les compositeurs sont montréalais.
Pas,
c'est ça l'affaire.
Pas
il y avait
Assassin's Creed.
50 compositeurs, tous montréalais, qui étaient tous là. En tout cas, on ne s'assumera
pas
à sa vision.
Mais c'est pour ça. Non, mais en fait, je vais venir à mon point sur le concert. J'ai pas été le voir parce que je veux pas voir un concert de même. Il y a rien qui se trouvait intéressant là-dedans. Mais parce que j'en ai écouté plein de ces musiques-là, puis je sais que c'est pas si bon que ça. Mais puis La La Land, c'est comme... Non, c'est juste, j'aime pas l'idée qu'un film qui parle de Hollywood gagne le film.
Tu commenceras par aller voir toutes ces affaires-là, puis après ça, j'écouterai ton opinion.
Non, non.
Je prendrai ton opinion en considération, mais pour l'instant, non.
Non, mais tu sais bien qu'un film qui parle de Hollywood allait gagner. Tu sais, c'était impossible que ça soit autre chose, là. Tout le monde le savait avant. Mais puis de toute façon, j'aime pas ça les comédies musicales. Fait que ça règle le problème. Fait que c'est elle. J'ai toujours de la misère avec les Emma. Il y a comme trop de Emma qui sont actrices. Fait que ça, c'est Emma Stone dans la... OK, c'est bon. C'est elle qui joue dans Spider-Man aussi.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Ça aussi, c'est de la merde, Spider-Man. Faudrait qu'on le fasse pour Vision XT.
Non, mais t'as peu que je te propose ma liste de films pour le mois de novembre.
Ouais, mais c'est ça que je me demande, là, parce que là, j'ai écrit notre prochain film sera pour une interrogation.
Pour le mois de novembre, je voulais faire un espèce de festival de films, un festival hommage à des acteurs de films d'action. Je pensais en faire 4, fait que finalement, étant donné qu'on a repoussé l'épisode de Ghostbusters d'une semaine, ben ça en fait juste 3, donc ça va être un tout petit festival. Mais on va commencer le festival du beau la semaine prochaine avec le seul, l'unique Chuck Norris.
Yes.
Et un de ses plus grands films, Delta Force, 1986. La semaine suivante, je propose un film de nul autre que Jean-Claude Van Damme. Un film de 1997 dont le titre est Double Team. Ça va être beau. La scène dans le bain avec la cigarette, en tout cas. Tu vas voir. Et finalement, la semaine suivante, un film que ça fait très longtemps que je veux voir pour Vision X. Un film de incluant Bruce Willis. Mais surtout ouais. Matthew Perry, The Whole Nine Yards. Une comédie, mais avec quand même un petit peu d'action, en tout cas.
Qu'est-ce qui se passe à Montréal?
Ouais, Laval, en fait. Montréal, c'est un peu mélangé dans le film. Pour de vrai, c'est tourné plus à Laval, je pense.
C'est comme ça se passe à Laval, mais ils prennent le pont Champlain pour se rendre à Montréal.
Ouais, ils habitent à Laval, mais ils prennent Jacques Cartier pour aller.
Ouais, c'est ça. Puis son bureau de dentiste est dans Vieux-Montréal. C'est un peu weird. Mais tu sais que quand ils tournaient ça, j'étais à la ronde un moment donné, puis... Matthew Perry puis Bruce Willis est à la ronde.
Mais j'ai déjà ma question du geek pour The Whole Nine Yards. Parce que je lisais des affaires sur Friends cette semaine. Et puis, en tout cas, je suis tombé sur des belles affaires, mais il me reste une saison de Friends, puis après ça, je vais avoir tout écouté les Friends.
Dans quelle saison est-ce qu'il prenait de la drogue? C'est aussi, The Whole Nine Yards, c'est quand même une des scènes de Toton la plus gratuite que j'ai vue de ma vie.
Ah ouais. Mais c'est gratuit, mais c'est efficace du point de vue de l'histoire.
Ah ouais. Puis c'est hilarant, là, quand même,
c'est
comme
ça. C'est vraiment
scène.
Drôle. C'est, c'est juste que tu t'attends tellement pas à ça.
Mais ça marche. But. Ça marche.
Mais c'est ça. Ça fonctionne tellement, les Totons gratuits. En tout cas,
c'était cœur.
On en reparlera. The Whole Nine Yards.
Si vous aimez ce qu'on fait, allez sur patreon.com/sbalbino pour contribuer. Donner $1 par mois, ça nous aide énormément. On donne du contenu. On n'a pas réussi à donner... Désolé à nos patrons pour le mois d'octobre. On a de la misère à donner Vision X, fait que le contenu supplémentaire, il va en avoir. Moi aussi, on va vous faire un épisode sur une trame sonore, comme on l'avait déjà fait auparavant. Et aussi, il nous reste 2 mois pour que faut qu'on parle avec nos patrons pour qu'ils choisissent des films, là, les 2 derniers. Là. Fait que, allez faire un tour sur patreon.com/sbalbino. Donc, la semaine prochaine, on va voir Chuck Norris à l'action. Je l'ai jamais vu, j'ai hâte de voir ça. Allez sur moi-geek.com pour trouver nos épisodes. Vous pouvez aller sur Facebook, hein, Vision X sur Facebook. Vous allez voir quand on enregistre, vous allez pouvoir nous regarder live sur Facebook aussi. Allez sur Balado Québec, en fait. Là-dessus, vous allez pouvoir trouver tous les liens, tout ce qui est Vision X, tous nos épisodes, des liens pour notre Patreon, des liens pour Facebook, Twitter, tout est là. Fait que Balado Québec, meilleure place possible ou imaginable pour rester informé et suivre Vision X. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine à tout le monde. Merci beaucoup, David.
Merci à toi, Sébastien.
Bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine.